J'adore, j'ai une fascination pour les moulmous.
En silicone.
Tracé gras, il n'y a plus d'espoir. Eh les amis, je sais pas si les gens le savent, mais la farine, faut la mettre d'un coup en fait.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants.
Ça coupe le gras comme ça avec l'acidité. J'adore.
Laurent Bariotte.
Ben oui, il s'en passe des choses. Amis bons vivants, soyez les bienvenus. Heureux de vous retrouver. Hein. Et puis pour commencer, tiens, merci pour votre fidélité. Les audiences viennent de tomber jeudi. Vous êtes près de 700 000 à nous écouter chaque samedi. Donc vraiment, un grand merci. Ça nous fait chaud au cœur. Et comptez sur nous, tiens, pour continuer à défendre le meilleur du bon avec toute la bande. Alors, c'est les vacances. Comment passer du temps en famille en cuisine? Comment profiter des vacances pour transmettre le goût à nos enfants? Le chef Julien Dubouet va nous régaler avec des recettes accessibles. Ils sont déjà là, attablés, mais bons vivants du samedi. Championne du jeu de quilles, vous lisez son amour du vin dans le journal Le Monde. Ophélie Neyman est des nôtres. Miss Glouglou pour les intimes. Bonjour
oui,
Ophélie.
Oui, bonjour Laurent.
Rassembleur, inventif, il partage avec nous le goût du bon sens. Ce samedi, pour lui, souffler n'est pas jouer, mais cuisiner. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent. Bonjour Ophélie.
Salut Yves.
Atelier soufflé, hein, c'est
Atelier
ça.
Atelier soufflé toute la semaine.
J'adore, vous allez nous rendre populaires et faciles à faire. Nous allons aussi nous intéresser aux plantes sauvages. Et à ce propos, tiens, on pense à tous les agriculteurs qui ont subi le gel cette semaine. Un tiers des surfaces agricoles touchées par le gel, c'est énorme. Hein. Donc on pense à vous, chers amis agriculteurs, maraîchers, arboriculteurs, vignerons. Et sur les coups de midi, eh bien, la bonne vivante Estelle Denis viendra partager avec nous un tagine de poisson. Petit rituel pour démarrer, hein, vous connaissez le démarrage, c'est le cas de le dire. Quel est votre goût de la semaine à la maison, en voiture, en écoutant le podcast? Posez-vous la question. Je commence par vous, Ophélie, votre goût de la semaine.
Eh bien moi, c'est la rhubarbe matinée de cannelle. J'ai trouvé de la rhubarbe sur le marché. Je me suis dit, tiens, je fais une petite tarte à la rhubarbe. J'étais avec mon petit garçon de 5 ans qui a voulu m'aider. Et je mets toujours une petite pincée de cannelle dans l'appareil. Et lui, il a pris une cuillère et il a vraiment plongé la cuillère et il a mis une pleine cuillère de cannelle. Ça sentait presque plus la cannelle que la rhubarbe.
C'est de la cannelle à la rhubarbe.
Ouais, mais franchement, c'était pas si mal en fait. C'était plutôt bien. L'acidité de la rhubarbe et l'épice de la cannelle, ça se marie vraiment bien.
Donc, première information, ce samedi, la rhubarbe et la cannelle, ça marche ensemble.
Ça marche bien.
Cher Yves Candebord, votre goût de la semaine.
Ouais, moi, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à l'un de mes péchés mignons. C'est la vache qui rit. C'est les 100 ans de la vache qui rit.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est aujourd'hui.
Et alors, c'est bon.
Et la vache qui rit, alors certes, c'est un fromage industriel,
oui,
mais
bon.
C'est un souvenir d'enfance, c'est le croque-monsieur, deux tranches de pain, un quartier de vache qui rit, une tranche de jambon, on passe ça au toaster, et ça coule. C'est moelleux.
Dans certains mêmes fromages de la cuisine
c'est
indienne.
Bon.
Non, c'est, mais que c'est bon,
c'est
mais vous avez raison. Mais absolument, on a tous comme ça des. C'est pas des péchés inavouables, mais il y a des choses comme ça qu'on aime, qui sont industrielles, c'est vrai, faut bien le dire. Hein.
Faut bien le reconnaître
Faut le reconnaître. Le tout, c'est de tout équilibrer, encore une fois. Quoi. Mais voilà, quoi. Bien sûr qu'on a le droit de manger de la vache qui rit.
Alors, joyeux anniversaire, ma chère vache qui rit.
ils vont être contents, vous allez recevoir des stocks. Alors, mon goût de la semaine, moi, ce sont les petits pois à la française. Ils viennent de débarquer sur nos étals, les petits pois. J'étais en tournage pour la télévision, pour TF1 cette semaine avec de nouvelles recettes de printemps. Et j'ai refait ce grand classique de la cuisine française que vous connaissez Yves, hein, les petits pois à la française.
C'est un monument on va dire.
Des petits pois avec des oignons nouveaux, du beurre, du sel, du sucre. On mélange tout ça comme ça a cru. On met dans une casserole avec 2 cuillères à soupe d'eau. On couvre et c'est une cuisson à la française, c'est-à-dire étuvée et pas à l'anglaise où on les trompait dans l'eau bouillante en fait.
Oui, c'est parce que tous les légumes devraient être plus étuvés que cuits à l'anglaise dans l'eau.
C'est vrai qu'on a une quintessence du goût avec ces petits pois à la française.
On a peur de les brûler, mais je pense que c'est pour ça qu'on n'ose pas. Mais en fait non, ça marche très très bien comme ça et c'est tellement meilleur.
Et puis c'est même pas 10 minutes de cuisson, c'est très court.
Ça dure 5-7 minutes.
Allez, prenez vos paniers, chers amis auditeurs. C'est l'heure d'aller au marché. Nous allons prendre la température des étals dans le sud-ouest. Quels sont les derniers arrivages? Quelles sont vos recettes de printemps? Eh bien, Benjamin Peter vous a tendu le micro sur le marché de Bessières, en Haute-Garonne.
Il y a du brocoli, on est dans la pomme, des fraises, des framboises.
Il y a de tout. Et puis des prix intéressants.
Et là-dedans, je vous ai mis des oranges.
Bon. Je peux vous demander ce que vous avez acheté?
Les asperges de région et de Montauban, ils disent. Et puis il y en a une autre, c'est l'asperge sauvage. Vous connaissez-vous?
Ouais.
Ah, vous êtes du coin. Hein. Les responchus. Parce que ma grand-mère était du Tarn. Elle faisait bouillir des œufs et des lardons.
On peut ajouter des patates éventuellement. Dans l'Aveyron, ils les mangent comme ça. Je suis originaire de l'Aveyron et les responchus, français, c'est le tamis.
Le responcho, c'est plus joli.
Oui, c'est plus chantant, c'est sûr.
Vous avez acheté quoi alors?
On va dire des fruits et des légumes, et des asperges aussi.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça alors?
Les brocolis avec des œufs et une bonne huile vinaigre. Et les asperges, je pense que je vais en faire une quiche.
Pas mal ça.
Il est cuisinier.
On cuisine, hein, bravo, on cuisine dans le sud-ouest. Ça fait plaisir de vous entendre avec vos jolis accents chantants. Et merci au passage à tous nos correspondants locaux qui viennent vous voir chaque semaine sur les marchés de France et de Navarre. Vous connaissiez cette asperge sauvage, enfin cette sorte d'asperge sauvage?
Oui, parce que c'est pas de l'asperge, non. Laurent. Ça s'appelle,
c'est une sorte,
ça ressemble à l'asperge, ça s'appelle le tamier. Et on les consomme quand elles sont jeunes, il ne faut pas prendre les tiges très longues parce que c'est un peu du bois. Mais c'est très très bon, c'est assez sucré avec une belle pointe d'amertume. Et après, on les travaille vraiment à l'identique qu'une asperge sauvage.
Ah ben voilà. Et ben alors tiens, vous parlez d'asperge sauvage, on va parler des plantes sauvages dans un instant, comme l'oseille, l'ortie, le pissenlit. Elles poussent dans la nature, malgré les gels de ces derniers jours, on en trouve quand même dans nos jardins et dans nos champs. Et bien, comment les cuisiner? Tiens, petit cours d'oseille, de pissenlit et d'ortie, juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
La nature est une jardinerie à ciel ouvert, alors même si les températures sont fraîches en ce moment, on y trouve de nombreuses plantes comestibles et gratuites pour l'occasion. Alors ce samedi, on va faire un petit tour d'horizon, tiens, de celles que l'on prend trop souvent pour des mauvaises herbes et qui sont pourtant délicieuses à cuisiner. Alors attention, on ne cueille pas n'importe quoi, n'importe où. On fait en sorte que les champs dans lesquels on va cueillir ne soient pas pollués et n'aient pas trop reçu de traitements chimiques. Au passage, Ophélie et Yves, quelles sont vos plantes sauvages préférées, tiens?
Alors moi, je ne suis pas une grande aventurière, donc le pissenlit, ça me suffit.
Ouais, le pissenlit, c'est dans ton jardin, ça.
Alors je ne prends pas celui du jardin parce que je suis à Paris et que non, mais en revanche, dans les champs, dès qu'on est à la campagne, c'est facile.
C'est vrai
à
que là, on est encore dans la saison du pissenlit. C'est quoi votre plante sauvage préférée?
Alors, moi, c'est la violette. J'adore la violette parce que je fais des infusions dans des petits sirops de violette et frais, c'est déjà très rafraîchissant. Alors, ça a beaucoup de propriétés intéressantes et je trouve ça très beau.
La violette de Toulouse.
La violette de Toulouse, c'est cette couleur qu'on a qui tourne quand on l'a infusée.
Et se concentrer,
Qui se concentrer, qui tourne un peu presque au côté rosé. C'est super intéressant. Et il faut savoir une chose, quand on fait des infusions de violette, il ne faut surtout pas la faire bouillir. Alors, d'accord, on prépare sa préparation avec un jus de citron, un peu de miel, de l'eau, à frémissement. On les met à infuser dedans et après on les passe. Et quand on les passe, il faut vraiment les écraser pour récupérer, bien sûr, le jus et toute cette couleur qui est belle. Dans une carafe, table...
La couleur, magnifique.
C'est beau, c'est magnifique.
Mais c'est un peu tôt déjà, ce n'est pas encore la saison là, pour la violette.
On va commencer d'ici 3 semaines, un mois.
On a fait un sondage, tiens, sur le groupe Facebook des bons vivants sur la page Europe 1. Quelle est votre plante sauvage préférée? L'oseille, 47%, le pissenlit, 39%, comme Ophélie Neyman. Oui. Viennent ensuite l'ortie et puis d'autres plantes comme le coquelicot, la sauge, le thym sauvage, le romarin et l'acacia. Et Marion Sauveur, qui fait partie de la bande, eh bien, figurez-vous qu'elle en pince pour l'oseille, Marion. Et elle s'est rendue chez le maraîcher en chef Laurent Berrurier à Neuville-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Et il y a de l'oseille sauvage qui pousse au bord de ses champs, eh bien évidemment, il la récolte et il nous en parle.
Alors à nos pieds, on a l'oseille sauvage. Alors, l'oseille sauvage, on en trouve partout, sur les bords des chemins, lisière des bois, sur le bord des routes. Ça a une feuille un peu longue.
Un peu en forme de fer de lance.
Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de duvet dessus, elle n'est pas dufteuse. Une tige un peu rouge. Ça pousse en touffe parce que de toute manière, c'est un vivace.
Ça se mange cru, l'oseille.
Ah oui, on peut essayer. Moi, j'adore ça.
Quelle feuille faut choisir?
Ce qu'on veut. Hein. De toute manière, dès qu'on va couper les feuilles, d'autres vont ressortir.
Une feuille pas très grande.
Plutôt des petites feuilles pour la salade.
Exactement, oui. Parce que les petites feuilles sont beaucoup plus tendres. Voilà, et les feuilles sont légèrement un peu plus dures. Donc autant les faire cuire, les grandes feuilles, et autant garder les petites feuilles du cœur pour couper, ciseler et puis les manger crues. Voilà. Et dès qu'on l'écrase sous la dent, automatiquement, on a ce petit goût citronné qui apparaît. C'est l'acide oxalique.
C'est bon, ouais. Ça donne envie d'y revenir. Ouais.
Mais dans la cuisine, c'est une merveille de la nature. Voilà. Un petit challenge pour Laurent.
Laurent Mariotte.
Oui, qui nous invente des fois une autre recette, puisque je sais qu'il est très créatif. Nous sortir un peu l'oseille des sentiers battus.
Ah bon, on est plusieurs, on est avec Yves Candebord, même à cette table. C'est vrai qu'on a des idées. Merci Laurent Berrurier. Et puis on a vu que, donc, si vous voulez faire plaisir à Marion Sauveur, vous savez quoi lui offrir ? Un beau bouquet d'oseille. Hein. C'est vrai qu'on aime cette vive acidité. Alors moi, j'aime bien en faire une soupe, par exemple, revenue dans un petit peu d'huile d'olive, avec un petit oignon, du bouillon de volaille. Je mixe avec du chèvre frais ou même de la vache qui rit, tiens, si vous voulez. Et puis après, on met un chèvre émietté, mais pourquoi pas ? Ça peut l'adoucir. Comment vous la cuisinez, l'oseille, vous ?
Moi, l'oseille, je l'adore. Cru.
Ouais, moi aussi, oui.
Et je l'aime en pâtisserie.
Ah ouais ?
Vous faites une crème anglaise classique. Une fois que votre crème anglaise est faite, vous la laissez bien refroidir au réfrigérateur, vous la sortez, vous prenez une botte d'oseille que vous équeutez, lavez et équeutez, vous la mettez dedans et vous mixez. À cru. Et ça va vous faire une crème anglaise avec un verre d'eau magnifique, avec une superbe acidité qui va venir contraster un peu avec le sucre. Et ça, un accompagnement en ce moment avec des fraises.
Et donc il a
fraises, crème anglaise oseille, c'est facile à faire et l'acidité est merveilleuse.
Il a le printemps créatif, hein, Yves Candebord, la violette, l'oseille en dessert. Dites donc, on ne vous arrête plus. Alors, dans la famille des plantes sauvages comestibles, il y a l'ortie aussi. Bon, vous savez la reconnaître, Ophélie,
hein ? Oui, bah quand on l'attrape, ça fait quelque chose. Hein.
On ne l'attrape pas, mais la merde.
C'est une grande plante. Ça fait 20 cm, ça fait jusqu'à 1,50 m. Oui, pardon. Ouais. Yves.
Une astuce pour les ramasser, c'est un sac, tout simplement un sac en plastique. Vous mettez un sac en plastique retourné dans votre main,
bien sûr, oui.
Et vous la ramassez avec. C'est très facile.
Alors moi, je mets des gants de vaisselle, mais ça, c'est exactement le même principe. C'est juste un peu plus joli.
Moi, j'ai pas de chance d'avoir des gants de vaisselle dans ma voiture. Il y a pas de gants de vaisselle, Ophélie.
Comment vous la cuisinez, vous, Ophélie, alors ?
Ah bah on peut la déguster crue, mais dans ce cas-là, il faut bien l'écraser, il faut l'enrouler, il faut la hacher, mais on peut la prendre aussi en soupe avec des pommes de terre.
Cru en pesto, c'est très bien, effectivement.
Ah oui,
c'est
on peut
bon,
faire un pesto d'ortie.
Avec une omelette aussi, on peut
mettre
quelques feuilles.
On peut la mettre dans des quiches, on peut faire pas mal de choses en fait avec l'ortie, qui a mauvaise presse alors que c'est très bon.
Autre trésor de la nature, on en parlait tout à l'heure, c'est le pissenlit. Alors c'est vrai qu'il a une belle amertume, hein, ce pissenlit. Il ouvre l'appétit et en plus, il a des vertus digestives, hein, avec cette belle amertume.
Oui, on peut en faire plein de choses. Alors on va les trouver là au début du printemps, hein, le mois d'avril. En ce moment, c'est le meilleur moment pour les trouver.
Il y en avait déjà au mois de mars, là, avec les chaleurs qui sont arrivées plus tôt que prévu.
Qui malheureusement sont arrivées trop tôt.
Oui, trop tôt. On le voit, on le paye là dans les champs et partout en France. Oui.
Et après, alors il y a une recette qui vient de chez nous, hein, qui vient des Vosges. On appelle ça la chaude merotte. Et qu'est-ce que c'est bon, moi, c'est comme ça que je préfère les pissenlits. C'est tout simplement cru. Ouais. C'est une salade de pissenlits, mais avec des lardons.
Oui, des lardons qui sont déglacés avec du vinaigre de vin rouge. Et on pose ça, cette sauce chaude qu'on appelle la chaude merotte sur les pissenlits.
Exactement.
Et ce qui marche très très bien avec le pissenlit, parce que c'est vrai que l'amertume du pissenlit quand même est présente, c'est l'œuf mollet. Ah. Alors, je vais rajouter un petit, parce que vous avez beaucoup de recettes
de
merveilleuses
l'est.
De l'Est, mais votre recette de l'Est, avec un joli œuf mollet posé dessus, quand c'est vous vrai. Allez le casser, que le c'est jaune vrai. Va venir voilà,
on prend,
amener cette supplément d'âme, je pense que ça va faire une jolie salade.
On achète Yves Candebord.
Et puis quand même, pour rendre hommage à nos auditeurs, il y a une auditrice, Isabelle, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Elle se souvenait des pissenlits en salade de sa grand-mère qu'elle appelait les dents de lion et qui étaient servies avec des noix et des petits copeaux de Beaufort.
Eh ben, c'est délicieux, comme quoi tous les goûts sont dans la nature, hein, qu'on se le dise. Alors c'est les vacances pour un grand nombre d'entre vous. On va vous donner des idées tiens, pour cuisiner en famille dans un instant. Mais avant, nous allons débattre autour d'un sujet toujours actuel, malheureusement. Comment faire pour que tout le monde en France mange à sa faim ? On en débat juste après la pause. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
En France, la précarité alimentaire touche des millions de personnes. Nous sommes dans une société moderne et pourtant, des personnes pauvres n'ont pas accès à suffisamment de nourriture de bonne qualité pour se nourrir correctement. Alors, pour en débattre avec nous et proposer des solutions, j'ai invité Frédéric Danhé, qui est journaliste spécialiste de l'environnement et co-auteur du livre qui vient de sortir « Ensemble pour mieux se nourrir » aux éditions Actes Sud. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Laurent Mariotte.
Merci d'être là. Alors,
je vous en prie.
Nous sommes ici au studio Coluche, hein, un nom associé au Resto du Cœur créé en 1985. On compte plus de 8 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire aujourd'hui en France. Quel est le bilan là, des associations caritatives par rapport à ce fléau ?
Ben le fléau n'a fait qu'augmenter et il a été révélé par la Covid. Ce qu'on oublie, c'est que la Covid a surtout touché des gens mal nourris. Hein, c'est les obèses, les diabètes de type 2, les syndromes métaboliques, tout ça lié à la mauvaise alimentation. On ne parle que des personnes âgées, mais en fait, c'est surtout les personnes mal alimentées, donc en grande majorité pauvres, qui ont été touchées. Ça touchait 8 millions de personnes selon un critère statistique de l'INSEE. Aujourd'hui, on est entre 9 et 10, plutôt proche de 10. C'est-à-dire qu'en France, il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui, à un moment ou à un autre, se privent de manger au moins une journée dans le mois. 10 millions de personnes, c'est beaucoup. Et sur ces 10 millions de personnes, il y en a entre 3 et 4 pour qui ce n'est pas une journée, c'est une semaine, c'est 15 jours. Oui. Et ils ont à la fin du mois moins d'un euro par jour pour manger par personne.
Moins d'un euro par jour pour manger. C'est quoi le minimum pour manger dignement par jour en fait? C'est 5 euros?
C'est 5 euros, ouais, c'est ça.
C'est ça?
Pour manger des produits de qualité, des produits bruts, des produits dont on parle dans cette émission, oui, c'est à peu près ça. Ça coûte cher de bien manger en France.
Alors, vous m'avez signé votre livre, justement, avec ce mot « Comment on mange sans argent ?» Pour l'interrogation, mal, vous me dites, mais il y a de l'espoir. Alors, il est de quel côté l'espoir? Comment on fait pour que les gens, effectivement, puissent manger les produits bruts dont on parle, dont vous parlez aussi? Il faut qu'ils cuisinent, peut-être, déjà,
ouais,
mais ils n'ont pas tous accès à des cuisines?
Oui, alors il y a quelque chose qui nous a marqué pendant ce travail avec Alexis Génie et Boris Tavernier, c'est qu'il y a plein de gens à qui on a dit « Mais attendez, pourquoi vous mangez des plats préparés dégueulasses alors que les boîtes de conserve, c'est pas cher ?» La réponse est simple, c'est que oui, mais les plats dégueulasses, on sait qu'ils sont dégueulasses, mais on les chauffe au micro-ondes, et le micro-ondes, c'est ce qui revient le moins cher pour chauffer des plats. Et sur les boîtes de conserve, sur les légumes en conserve, en fait, ça va peut-être vous paraître paradoxal ce que je vais vous dire, ça paraît pauvre. En fait, pour s'insérer dans la société, il faut manger des produits qui sont achetés par les gens qui ont les moyens, donc les produits préparés, et le marketing ne joue que là-dessus.
Ça, c'est terrible. Ce que vous dites, c'est que les plats préparés, c'est signe extérieur de richesse.
Bien sûr, comme la viande. Et vous avez des gens qui, par exemple, devraient se passer de viande parce que ça leur coûte trop cher dans leur budget, mais avoir de la viande, avoir encore les moyens d'acheter de la viande, c'est dire qu'on a encore un peu de sous. Et c'est pour ça que le discours végan, le discours végétarien, passe aussi mal, notamment dans les quartiers, parce que la viande, c'est un marqueur, non pas de richesse, mais on est encore au-dessus de la misère et on ne va pas y basculer.
Alors vous le dites dans votre livre, hein, la solution aujourd'hui doit passer par le solidaire. Il y a plein d'exemples qui fonctionnent, heureusement, hein, il y a de l'espoir et il y a des notes positives dans votre livre.
Alors, il y a deux exemples qui nous ont beaucoup marqués. Il y a celui de Soumoulou, près de Pau, avec une personne qui s'appelle Jordan, qui est en photo du livre, qui a dit « Nous, on n'arrête pas de nous dire dans les institutions caritatives, tu prends ça, tu la fermes et tu dis merci au monsieur ou à la dame parce que c'est mieux que rien. » Et lui a dit « Non, bah, moi, je préfère rien manger que manger de la merde. » Et donc, il s'est arrangé avec le curé et la mairie pour avoir un petit potager. Et le potager, il le cultive pour son association et il négocie en direct ou avec des éleveurs ou à la porte des abattoirs pour avoir un peu de viande. Lui s'en est sorti de son côté. Et il y a, plus proche de nous ici, dans le studio d'Europe 1, il y a Ma Petite Échoppe, qui est une coopérative de distribution alimentaire à Antony. C'est sans doute le meilleur exemple que l'on a vu. C'est-à-dire que c'est un lieu moderne, c'est un lieu beau, c'est un lieu qui valorise les gens, c'est un lieu qui ne les assène pas, comme on voit souvent avec des affiches, des pétitions pour sauver la planète. Il n'y a pas de grand discours. Les gens sont accueillis. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui n'ont pas les moyens, ils ont juste envie d'être des consommateurs normaux et d'être valorisés en tant que consommateurs.
Et dans cette échoppe, ils y trouvent quoi alors?
Ils y trouvent des produits de qualité, des produits souvent bio, des produits locaux, mais surtout des produits pas chers qui sont vendus au prix du producteur sans que le producteur soit lésé. Mais ils sont accueillis comme s'ils étaient dans un magasin normal, mais sans, et c'est ce qu'on déplore dans ce bouquin, on a vu beaucoup d'expériences de bonne volonté où des gens vont aider les pauvres, mais dès qu'ils arrivent dans ce lieu de distribution, il y a des affiches partout, ça fait très bobo, donc ça fait peur.
Donc la solution, vous le dites, elle est locale et elle est vertueuse quand on met une économie solidaire en place, en fait.
Merci, moi je pense, pour intervenir souvent, soit les Restos du Cœur et surtout avec le Secours Populaire, il y a aussi une méconnaissance du mot cuisiner.
Absolument.
Parce qu'on arrive face à des gens aujourd'hui
qui ne savent plus cuisiner.
Même si on leur propose qu'ils achètent des produits, ils ne savent pas les cuisiner. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faudrait réellement? Voilà, c'est s'impliquer peut-être les cuisiniers en premier dans ces lieux-là pour redonner
des ateliers pour expliquer
aux gens comment on travaille un fenouil, comment on travaille une courgette, comment on est capable de travailler.
Il y a une perte de culture alimentaire
et la cuisine est bonne pour l'estime de soi et ainsi on peut retrouver cette dignité que beaucoup de gens ont perdue justement mangeant mal. Hein.
Oui, et en faisant ça, Laurent, on ne fait plus l'aumône.
Oui, exactement.
On apprend quelque chose, c'est une transmission et quelque part, je trouve que c'est beaucoup plus revalorisant pour ces gens-là plutôt que systématiquement se trouver en situation de quémander leur repas.
On est ce que l'on mange, on est ce qu'il y a dans son assiette, c'est très important.
Eh bien, c'est ce que vous dites dans ce livre, Ensemble pour mieux se nourrir. Merci Frédéric Danhé d'être venu ici à cette table des bons vivants, alors plus léger. Dans un instant, tiens, on vous donne des astuces pour cuisiner pour toute la famille durant ces vacances de printemps. Le chef Julien Dubouet sera avec nous et il a plein d'idées accessibles. Mais juste avant, on écoute U2, Beautiful Day.
Heart is a blue, shoots up through. stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
U2 sur E1, U2 sur Europe 1. Voilà, entre les vacances, le télétravail et le couvre-feu, il y a beaucoup de monde à la maison en ce moment. Alors comment cuisiner pour toute la famille sans se prendre la tête? Comment profiter pour transmettre le goût à nos enfants? Vous allez voir qu'on peut concilier quantité et qualité sans se ruiner. C'est ce que nous allons entendre avec le chef Julien Duboué. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ah, il mange déjà, voilà, ça c'est un vrai bon vivant. Julien, c'est l'heure. Vous êtes le chef du restaurant Boulhomme dans le 18e arrondissement à Paris. Vous êtes aussi l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle Un plat, trois repas aux éditions Larousse. Un livre très malin parce qu'avec les mêmes ingrédients, vous montrez qu'on peut cuisiner pour les tout-petits, les bébés,
ouais,
les enfants et les parents.
Exactement. Bon, en même temps, j'en sors. Je l'ai vécu depuis quelques années là avec les trois enfants.
C'est ça.
Donc c'était le bon moment pour le faire.
Oui, oui, vous savez de quoi vous parlez justement.
Oui, un petit peu. Oui.
Hein, c'est pas que de la théorie pour vous. Qu'est-ce que ça a changé justement d'avoir trois enfants comme ça dans votre façon de cuisiner au quotidien à la maison?
Ben, en gros, pas grand-chose. Je prouve avec le livre justement qu'on a cuisiné pour nous parents et on a utilisé les mêmes ingrédients pour les enfants, donc que ça soit de 7 à 8 ans. De 5 ans et même de 1 an.
Et puis donc, c'est une question d'organisation quand même. Vous êtes un chef cuisinier, donc c'est votre truc l'organisation aussi.
C'est vrai, c'est vrai que c'était un peu plus facile pour nous, mais on prouve dans le livre que ça peut être aussi facile pour tout le monde et pour une famille normale.
Oui, et vous dites que quel que soit l'âge, on peut tous manger la même chose. Alors peut-être pas pour les tout-petits, les bébés quand même, parce qu'il y a les risques d'allergie, on ne va
ça.
Pas leur faire manger un riz de veau tout de suite.
Mais il n'y a pas d'allergie avec le riz de veau en fait.
Non.
Donc ça,
non,
oui, moi je le préconise par exemple. Donc alors, c'est un exemple, mais.
Non, mais fait, on sait qu'il faut qu'ils mangent mixé quand ils sont tout petits. Quand
voilà,
même.
Mixé, oui. Oui, mais justement, donc nous on va se faire un riz de veau.
Jusqu'à 6 mois.
Oui, voilà,
à 6 mois on commence. Après, on commence. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant dans le monde.
Oui, il est grand maintenant, c'est ça. Oui, voilà, vous êtes des jeunes papas. Vous voilà. Allez, je vous écoute alors.
Ben oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire un riz de veau, peut-être piqué aux anchois pour nous, pour rigoler. Mais dans la partie des enfants, on ne va pas le piquer aux anchois. Mais on va l'utiliser quand même avec les carottes qu'on a rôties dans la même poêle que les riz de veau pour en faire une purée et le mixer.
C'est ça.
Voilà, tout simplement.
L'éducation au goût, par exemple, ça fonctionne toujours avec les petits, Ophélie Neyman. Hein, c'est ce qu'on peut dire, ça.
Oui.
C'est quelque chose qu'il faut transmettre dès le départ.
Alors, comme toujours, je dis toujours, j'ai de la chance. Mon fils aime tout. Il a mangé des huîtres, il avait 2 ans, mais il m'a vu en fait piquer une huître sur le marché et je crois qu'il a vu ma tête. Il a vu que j'étais tellement heureuse, ça faisait genre une semaine que j'étais dans un port en Bretagne. Et c'est ça, je pense que quand les enfants voient qu'on prend un pied pas possible à manger certains trucs, ça leur donne super envie. Je pense que c'est une des premières clés.
Et ensuite, effectivement, l'éducation goût, leur faire sentir. Mon fils, il a des lotos des odeurs. Parce qu'avec le vin, c'est un peu compliqué de lui apprendre le vin. Oui. Donc, je lui apprends au moins les odeurs. Et ça travaille, ça travaille. Mais moi, je trouve votre bouquin formidable. Parce qu'effectivement, quand on est une jeune maman, au début, on essaye de faire des repas pour chacun. On prend des ingrédients, on fait un premier repas pour les petits, ensuite un repas pour les moyens, ensuite un repas pour les grands. Et c'est infernal. Alors que si on prend les mêmes ingrédients et qu'on les cuisine juste un petit peu différemment à chaque fois, bah ça marche pour tout le monde.
L'importance d'aller au marché, hein, vous en parliez Ophélie, vous dites la même chose, Julien Dubois, on le dit tous les samedis ici, mais emmenons nos enfants sur les marchés.
Tout à fait. Enfin, vous savez que nous, on a de la chance un peu provinciaux à être nés au milieu des produits, donc on n'allait pas au marché, on les avait dans le jardin et tout ça. Donc moi, j'ai multiplié ce qu'on a vécu gosse avec mes enfants, mais en étant citadin. Donc, au lieu d'aller au jardin cueillir et ramasser les fruits et les légumes, je les ai amenés au marché, effectivement. Et je vois encore Alba toucher des noix de Saint-Jacques comme ça et mettre à la bouche sur les étals de poissonnier pour comprendre le goût. Jouer et vouloir manger des crevettes vivantes qu'on venait d'acheter dans un sac. Quoi. Enfin, donc ça, moi, ça me fait du bien de voir ça.
Alors, sur les marchés en ce moment, il y a des asperges, des blanches et des vertes. Et justement, vous avez cuisiné de l'asperge avec des œufs parce qu'on sait que c'est une très belle association. Mais il y a plusieurs façons de faire cette association. Alors, racontez-nous, en fonction des âges, comment on mange l'asperge et l'œuf, Julien Dubouet.
J'ai pris tout simplement une recette que je mangeais tout gosse en allant ramasser les asperges, justement, avec mes parents. Et à 8-9 heures, il y avait une pause. Et la dame chez qui on ramassait les asperges nous faisait une omelette aux asperges avec un peu de gras de canard dans la graisse de canard, des graisses ronds, etc. Donc, je l'ai refaite tout simplement là pour nous, pour grignoter à midi, mais pour les enfants également, quoi. Et en fait, au lieu de faire une omelette aux pommes de terre, donc la classique, on peut faire une omelette aux asperges, tout simplement. Et les enfants vont découvrir les asperges d'une façon un peu ludique et plus facile à manger, quoi.
Alors, ils peuvent aussi les découvrir, les enfants, vous dites, en faisant des mouillettes avec les asperges pour la tremper dans un œuf. On sait que ça marche bien, l'asperge verte et l'œuf à la coque, par exemple.
Moi, je pense l'important, c'est peut-être retirer, pour les enfants, c'est retirer les assaisonnements, ces exhausteurs de goût que nous, adultes, on aime, que ce soit l'acide, le sel, le poivre, les épices. Il faut être modéré, mais après, je pense qu'un enfant qui peut très bien manger exactement comme ses parents, et au contraire, c'est une forme d'éducation du goût, et ça lui permet d'avoir la découverte. Ce que vous dites, Ophélie, voilà, je pense que votre fils, s'il aime ça, c'est parce que vous l'avez laissé goûter et consommer. Il n'y a pas de tabou.
Et servi les ingrédients, les aliments un peu à part les uns des autres. C'est-à-dire que souvent, les enfants n'aiment pas quand on mélange tout. Donc, effectivement, moi, j'ai tendance à faire plusieurs compartiments. Vous savez, ces fameuses assiettes à compartiments, comme ça, eux, ils font eux-mêmes leur mélange, en fait, tout doucement.
Alors, dans l'œuf coque, il y a 2 semaines, elle a trempé sa première asperge verte dans un œuf coque. Il y a une semaine, elle a tout simplement demandé des asperges vertes au petit déjeuner. Alors bon, il faut partir en courant au marché.
Ça marche. La preuve que ça marche. Donc, omelette tortilla, on va dire, aux asperges pour les grands. Les mouillettes d'asperges vertes avec les œufs à la coque pour les plus petits. Et pour les bébés, on peut même, vous le faites dans votre livre, faire une purée de pommes de terre, asperges et œufs,
Bien sûr. Moi, j'en ai mis. Bon, les œufs, en général, ça vient vers 9 mois. Bon, peut-être un peu plus tôt. Après ça, c'est... À chaque appréciation, on lit tous des bouquins là-dessus, mais moi, ils ont mangé des œufs avant 9 mois aussi. Mais effectivement, voilà, on écrase l'asperge et la pomme de terre qui a cuit dans la même poêle, et donc avant l'assaisonnement, évidemment. Et j'ai mis un bout d'œuf dedans et il s'est régalé avec ça.
Beaucoup de nos auditeurs sont en vacances, sont en télétravail, il y a le couvre-feu, on est beaucoup à la maison, il faut s'occuper des enfants. C'est quoi votre truc pour ne pas être sous l'eau quand on doit préparer à manger pour la famille, en plus de l'organisation?
L'organisation, oui, mais en fait, moi, j'aime bien multiplier les quantités. Par exemple, si on fait cuire des haricots, on va en faire qu'un kilo, on va en faire 2, et le reste, on le garde au frigo, tout simplement, ou on en met 2 boîtes au congélateur, qu'on ressort, qu'on va assaisonner avec une vinaigrette, un peu d'ail des ours, un peu d'asperges à cru, et on verse ça sur un poisson vapeur, mais on a déjà nos haricots de cuit. Moi, j'aime bien presque cuisiner en double quantité, comme ça au moins on s'en sert 2 jours après.
En pensant à ce qu'on peut faire ensuite.
Exactement.
On fait un paleron au vin rouge par exemple, on le déguste comme ça, mais on peut aussi ensuite les filocher pour faire une bolognaise par exemple.
Ou en garder froid pour faire une terrine. Etc.
Il en a sous le pied le chef Julien Dubouet. Ne bougez pas, cuisiner pour toute la famille, c'est aussi cuisiner avec et pour les ados. Alors là, bien souvent, ça se complique. Ils sont ingrats parfois, nos ados. Alors, et ils aiment le gras, on va leur en faire manger. Juste après ça, il n'y aura pas que du kebab et du burger. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On se régale avec cette belle omelette aux asperges vertes de Julien Dubouet. Il y a des asperges blanches aussi. Vous avez mis les deux, hein, vertes et blanches.
C'est délicieux. C'est vraiment super, super, super bon. Merci.
Cuisiner pour toute la famille, c'est aussi nourrir une bande d'ados affamés et pas toujours reconnaissants. Alors avec Julien Dubouet, chef de Boulogne à Paris, Yves Candebord et Ophélie Neyman, on vous donne des astuces ce matin. On parlait de l'importance de l'organisation avec vous, Julien Dubouet. Vous êtes le chef de Boulogne à Paris dans le 18e arrondissement. Boulogne, ça veut dire la boulangerie où l'on mange. C'est une vraie boulangerie, c'est ça que j'adore dans votre endroit. On rentre dans une boulangerie avec des pains magnifiques faits avec des farines anciennes, des pains au levain sublimes. Et derrière, dans l'arrière-boutique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une salle de restaurant, alors pour le coup fermée en ce moment, mais gigantesque. Et le week-end, c'est une salle de restaurant qui se transforme en buffet. Il y a des buffets à volonté où les gens viennent bruncher. Ça, c'est un truc peut-être pour inciter nos ados à manger et à trouver leur bonheur. C'est de leur proposer de la profusion et de la diversité peut-être.
Oui, ben on voit, enfin nous c'est vrai que c'est un restaurant très familial, donc il y a une cinquantaine de plats différents. Donc là oui, les ados peuvent s'amuser, mais au lieu d'aller se servir qu'un plat dont ils ont l'habitude de manger, par exemple les frites qui sont sur le buffet, à côté, ben, ils vont voir un poisson dans une croûte de pain. Donc là ils se disent tiens c'est étrange, c'est bizarre, mais il y a du pain, donc le pain évidemment l'ado il adore, donc il va venir se taper une tranche d'une dorade en croûte de pain avec une écrasée de tomate à l'intérieur et il va se mettre à goûter. Donc ça pour nous ça fait du bien, on voit qu'on a gagné en faisant ça.
Vous faites des plats mijotés aussi, que vous faites mijoter dans vos fours de boulanger aussi.
Oui, oui, on laisse tous les mijotés, tous les plats à longue cuisson, on les laisse toute la nuit en général dans les fours éteints et ils mijotent jusqu'au lendemain que l'on sert sur les buffets. Hein.
Quels sont les mijotés qui cartonnent, on va dire, vos hits
les ados? Ouais, le hit, c'est chez les ados également, c'est vrai, c'est un rib de bœuf. En fait, c'est des plats de côte de bœuf que l'on snack et que l'on laisse braiser toute la nuit dans les fours à pain avec une sauce un peu barbecue. Oui. Donc bon, ça évidemment, ça plaît. Hein.
Vous nous l'avez apporté ici, on l'a goûté, c'est délicieux. Vous validez Yves Candebord?
Je valide. Je valide surtout Laurent, l'omelette. Parce que j'ai pas pu répondre tout à l'heure, j'avais la bouche pleine. Et c'est vrai que cet équilibre, l'œuf, l'omelette, blanche et verte, c'est pas mal pour un débutant comme Julien, moi je trouve.
Alors vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions au 39-21. On a une question à laquelle on va répondre avec Julien Dubouet, tiens.
Oui, bonjour les bons vivants. Je m'appelle Sandrine, j'habite à Ballon-Miré, c'est en Touraine. Voilà, j'avais une question. J'ai des garçons qui vont avoir 18 ans, des jumeaux, qui sont grands et costauds, qui prennent bien soin de leur corps. Alors, ils ne veulent manger que sainement, évidemment. Aucun produit industriel et je suis un petit peu à court d'idées. Alors, pouvez-vous m'aider? Merci beaucoup.
Oh bon, on en a plein des idées. Avec Yves Candebord et Julien Dubouet, Sandrine, on va trouver ce qu'il faut là. Julien, alors, qu'est-ce qu'on lui propose pour manger sainement? Un curry de poulet? Un gratin de quinoa?
Oui,
et de
bœuf? Oui, en ce moment, on fait un curry de lentilles. Donc c'est un plat avec lequel nous on se régale. Donc des pâtes de curry que l'on trouve maintenant dans tous les supermarchés.
Vertes, rouges, jaunes. Oui.
Exactement. Donc là on utilise la rouge que l'on fait revenir dans un tout petit peu de beurre et après on a cuisiné nos lentilles. Donc on les verse là-dedans et on y insère à la fin une belle cuillère de curcuma, donc qui est très bon aussi pour les sportifs. Et moi j'y mets quelques bulots pour changer un peu.
Mais
on peut y mettre quelques cubes de poisson ou un coquillage, une palourde ou
donc,
quelque chose comme ça.
Protéines végétales et animales. Hein,
exactement.
Parce que
donc
la
ça,
lentille
moi j'aime
la
bien. Au moins ça fait manger beaucoup de protéines végétales, mais on y additionne ou pas d'ailleurs le coquillage dedans. Quoi.
C'est bon, je prends. Ça va lui plaire à Sandrine, je pense. Yves.
Après, je pense qu'il faut savoir cuisiner des choses simples et faciles, surtout pour des ados. Moi, on est encore dans la saison de l'agneau, une belle épaule d'agneau, tout simplement dans un plat avec des courgettes, des aubergines. Voilà, et bien un peu d'huile d'olive, une belle aromate, un morceau de thym.
On voit que vous habitez dans le sud, elles sont déjà arrivées, les courgettes et les aubergines
Laurent,
chez vous.
Laurent, on est au printemps.
Ben là, il y a un gros décalage de saison, je peux vous dire, entre le nord et le sud.
Vous mettez ça à braiser au four. Et après, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier, sur les ados qui veulent manger sain, une salade. Je trouve, moi, quand on mange un plat chaud comme ça, qui est un plat compoté, l'épaule de l'agneau va être bien compotée, d'y amener une fraîcheur avec une belle salade. Alors en ce moment, on a la roquette, on a le début des mesclins. Et c'est vrai que c'est un bel équilibre.
Mais c'est vrai que les ados aiment bien la salade, j'ai remarqué, parce qu'il y a ce croquant, il y a cette fraîcheur. Une belle salade, un beau cœur de laitue par exemple, que vous allez servir entier, huile d'olive, fleur de sel, citron et copeaux de parmesan, ça marche super bien et on le casse comme ça en quatre et on déguste, Ophélie.
Oui, alors moi mon fils il a 5 ans, donc les ados, je me réfère à mon mari qui est quand même un ado attardé sur bien des points. Et je l'ai fait faire, je vous jure, pour son anniversaire,
ça c'est dit.
Je l'ai fait faire un atelier de création de pizza. Il a appris à faire des pizzas et il est ravi, il fait plein de pizzas. Je lui ai acheté un livre sur les burgers. Il a fait plein de super burgers. Et finalement, il mange comme un ado, mais c'est bon et je mange avec lui.
Alors, Ophélie, moi, je m'offusque un peu avec tout ça. C'est que dès que c'est des enfants, c'est burger, pizza, compagnie. Non, pourquoi pas, ça peut pas être blanquette. Pourquoi pas, ça peut être pot-au-feu.
Endive au jambon, bien sûr.
Ce sont des plats.
Oui, mais parce que je veux pas qu'on diabolise ces plats-là non plus, en fait. On a tendance à dire, oui, on vire la pizza et les burgers, mais quand on aime bien ça, et ben, il faut aussi apprendre à les faire.
Et on peut végétaliser les menus. En ce moment, on a fait, la semaine dernière, j'ai fait une carbonara d'asperges. Donc on a sorti les féculents, mais même les ados, enfin les enfants se sont régalés. Donc j'ai taillé des lamelles d'asperges blanches et j'avais fait à côté ma sauce parmesan avec un jaune d'œuf de caille. Mais c'était un vrai régal, quoi.
C'est ça, on peut customiser justement la cuisine. On peut faire un gratin de quinoa avec du bœuf. Je fais ça aussi et mon fils aime bien. Du quinoa qu'on cuit tout simplement, de la viande hachée de bœuf, un beau bœuf bien élevé. Et on met ensuite du maïs, une concassée de tomates, les épices qui arrachent comme les ados aiment. C'est vrai qu'ils aiment les épices aussi, hein, des mélanges d'épices mexicains. Voilà, c'est vrai que ça peut faire la blague. Vous vous souvenez du premier plat que vous avez cuisiné en tant qu'ado, Yves Condebord ?
Alors, je m'en souviens complètement, mais c'était un plat, c'était un agneau entier. Non mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'on cuisine des agneaux entiers et je m'en souviens parce qu'on le commençait à 4h du matin et donc on avait chacun avec mes frères un réveil et à notre tour, on se levait pour tourner pendant 3 quarts d'heure la bête.
Ah oui, vous nous avez raconté ça, c'est vrai, c'est le méchoui quoi.
Hein. C'était le méchoui, mais c'était magique parce que c'est la première fois de ma vie que je cuisinais quelque chose pour les autres. Et c'est peut-être ça qui a aussi déclenché mon envie de partager, mon envie de cuisiner.
Eh bien oui, le pouvoir de séduction de la cuisine, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Donc, on le dit aux parents qui nous écoutent, cuisinez avec vos ados, quoi. Et allez, je suis d'accord avec ce que vous dites, Ophélie. Il faut aller vers des plats qu'ils aiment peut-être aussi au départ pour leur montrer qu'on peut les faire en version maison versus industrielle.
Et qu'ils le fassent eux-mêmes avec nous, en fait.
Exactement, il faut participer.
Ouais, alors, je reviens sur mon idée, parce que vous savez que je suis berné, je suis quand même un peu têtu. Mais un pot-au-feu, on fait les courses, on rentre à la maison avec les ados. On met tout dans la marmite, on fait cuire, on part sur autre chose. Je veux dire, ça devient ludique parce qu'il ne reste pas pendant une heure et demie dans la cuisine. Ça leur permet de faire autre chose et de revenir voir que ça s'est fait tout seul.
Ça mijote, il y a le four qui travaille, il y a la cocotte. Et ben voilà.
Que c'est facile.
Merci Julien Duboué d'être venu à notre table et bravo pour ce joli menu autour de l'asperge. Je rappelle votre livre « Un plat, trois repas pour toute la famille » aux éditions Larousse. C'est bientôt l'heure d'accueillir notre invitée. Alors elle aussi, tiens, elle cuisine pour toute sa famille. On va manger et bouger avec Estelle Denis dans un instant. Mais juste avant, on écoute le tout nouveau titre de Clara Luciani. Ça s'appelle « Le reste » et c'est extrait de son nouvel album qui sort le 11 juin. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Le reste, Clara Luciani sur Europe 1. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle a le sport dans la peau et dans la voix. Révélée par l'émission 100% foot, elle dribble et passe la main à ses coéquipiers sans aucune faute. Elle est aujourd'hui capitaine sur la chaîne L'Équipe. Les mots Barça, Ligue 1, penalty la mettent en appétit. Et côté cuisine, elle est plus gigot d'agneau que Pokéball. C'est Estelle Denis, notre invitée. Bonjour Estelle.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous confirmez ? Plus gigot d'agneau que Pokéball ?
Ah bah oui, oui. Ah bah le Pokéball, c'est mon angoisse. Ah bah c'est, je trouve ça affreux.
C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Hein.
Mais voilà. Insupportable.
Mais oui, on peut bien manger en mangeant un petit peu de tout le temps et pas que des Pokéballs, forcément. L'équipe d'Estelle, c'est tous les jours à 17h30 sur la chaîne L'Équipe, votre belle émission de bande. On en parlait juste pendant la chanson. On sent que vous y prenez beaucoup de plaisir, que vous vous amusez avec cette bande, hein, à nous faire partager les joies du sport et du football.
Bah ouais, c'est comme la cuisine en fait, c'est toujours meilleur à plusieurs quoi. Donc moi je suis hyper contente, on est 7 en plateau tous les soirs, c'est du sport, c'est de la bonne humeur, c'est de la convivialité, c'est du partage et je m'éclate effectivement quoi et alors, en ces temps un peu compliqués, eh ben
moi c'est ma petite
ouais, c'est ma bouffée d'oxygène quoi, je sais que je vais me marrer tous les soirs.
Et la question qu'on se pose alors après l'émission, comme elle est en direct, vous rentrez chez vous, vous faites la cuisine alors pour Raymond et les enfants?
Franchement non, parce que j'ai pas le temps. Donc la semaine, honnêtement, c'est picard. Voilà, faut être tout à fait honnête, c'est picard ou c'est les enfants qui cuisinent d'ailleurs.
Ah quand même.
Voilà, mais le week-end en revanche, ouais, je prends du temps pour cuisiner des choses, et puis mes enfants le réclament quand même, parce que bon bah picard toute la semaine, il y a quand même un moment.
Mais
où,
c'est
bon,
ça, oui.
Non, donc mais... il faut autre chose. Donc là, je prends vraiment du temps et c'est mon petit bonheur à moi, quoi.
Qu'est-ce que vous faites alors justement quand vous prenez le temps de cuisiner avec vos enfants ?
Pas des trucs hyper compliqués, hein, mais plutôt
non, mais on
des
peut faire simple et bon. Hein.
Ouais, voilà. Alors plutôt des plats de, on va dire des plats de grand-mère, quoi. Ça va être effectivement une épaule d'agneau, une blanquette, les lasagnes, beaucoup, parce que ça, ils me les réclament. Donc,
ouais, et puis on peut customiser les lasagnes, hein, on peut les faire avec de la viande de veau, avec du bœuf, avec des légumes.
Avec du poisson.
Avec du poisson.
Moi, je ne customise pas. Moi, je suis la recette. Mais alors, je vous jure, si c'est 10 grammes de sel, c'est pas 11 grammes. Moi, je suis vraiment... Ah ouais, non, mais moi, je suis les trucs, mais voilà.
Ça vous stresse parfois, hein, les livres de cuisine, justement, vous mettez une pression pour bien aller au bout de la recette et la faire comme il faut.
Ah mais moi, honnêtement, j'ai plus de pression quand je fais un dîner chez moi qu'avant un grand direct. Ah non, mais moi, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais, honnêtement, il n'y a rien qui me met plus la pression que... Vous savez, il y a des gens qui viennent, vous faites un dîner et voulez que tout soit parfait. Quoi.
Bien
donc,
sûr.
Déjà, dès le matin, vous commencez à stresser, donc vous stressez tout le monde. Et ça va de quelles assiettes je vais mettre, alors qu'en fait, vous n'avez qu'une sorte d'assiette, donc de toute façon, le problème est réglé. Mais à qu'est-ce que je vais faire et est-ce qu'ils vont aimer et est-ce que cette entrée, ça va avec mon plat, est-ce que, comment je vais dresser. Non, mais c'est horrible, quoi. Donc, du coup, je fais des lasagnes, comme ça ne se dresse pas.
Hein,
ça, et puis tout le monde est content.
Ça sert. Mais oui, le plat de copain au milieu, on adore ça. Voilà. Quel est votre goût de la semaine, Estelle Denis ?
Je vais dire la salade. Je commence mon body summer et donc c'est très important.
C'est
d'être,
quoi le body summer?
Mais mon corps d'été, enfin écoutez.
Ah pardon, oui. Mais, oui, bien sûr. Mais il est bien votre corps d'été, il
mais
est déjà.
Mais pas assez. Ah bon? Pas encore. Mais non, pas encore. Donc là, c'est un truc qui se travaille. Donc comme je ne mange pas de poké machin, là, donc je fais des grosses salades. Voilà.
Alors Estelle Denis, entre le foot et le poker, vous êtes très joueuse.
Oui.
Yves Condebord, que vous connaissez, est aussi joueur et la preuve encore ce samedi matin, puisque Yves, vous vous attaquez à un monument de la cuisine française, j'ai nommé. Le soufflé. Alors c'est vrai que c'est un plat qui intimide, hein, c'est ce que vous
c'est
dites.
C'est très dur, je n'en fais jamais.
Eh bien vous allez voir qu'avec les conseils d'Yves, vous allez pouvoir faire un soufflé dès ce week-end en rentrant à la maison. On est d'accord Yves, hein?
Tout à fait, et j'espère, et j'y compte surtout.
Mais je vais le faire.
Des ingrédients Estelle, faciles à trouver déjà pour commencer.
Alors, c'est
hein.
Des ingrédients faciles à trouver, et c'est surtout, parce que justement tout à l'heure on parlait du coût d'un repas, c'est des plats qui ne coûtent pas cher.
Exactement.
Alors c'est des ingrédients du quotidien, à des prix vraiment très très modérés. On va prendre l'exemple du soufflé fromage.
Ouais.
C'est des œufs, du fromage râpé, à peine un peu de beurre et un peu de farine.
C'est un grand classique et ce qu'on aime, c'est qu'il a un petit côté vintage aussi, le soufflé, en fait.
Hein. Alors, moi j'ai un souvenir de soufflé quand j'allais rendre visite à ma tatie, tatie Suzanne à Navarinx. Voilà, sa spécialité, c'était le soufflé. Et elle nous faisait des gros soufflés
dans
au fromage.
Dans le gros moule à soufflé.
Ouais, mais attention, on le savait, donc je peux vous assurer qu'on était au garde à vous. La partie de cartes, la partie de rugby, on l'a arrêté quand on avait le coup de sifflet, obligé de se mettre à table. Car le soufflet est servi, il faut le manger.
Un soufflet n'attend pas, ce sont les invités qui attendent, hein, c'est très important. Et alors,
on voyait arriver cette montgolfière. D'ailleurs, c'est un cuisinier, Beauvillier, qui dans les années 1782 a créé le soufflet. Et on sait que les frères Montgolfier venaient dans le restaurant. Alors, qui a copié qui?
Ah, ça, c'est une belle histoire, belle histoire. Alors, nos auditeurs se posent la question, comment faire un soufflé facile et réussi à la maison? On va dire la vérité, vous en avez fait plein toute la semaine pour les auditeurs des Bons Vivants. On les retrouvera sur la page Europe 1. Vos trucs et vos techniques, alors.
Voilà, c'est simple, c'est ce que disait Estelle, un soufflé. Il y a des règles et surtout, il y a une recette à respecter au gramme près. Ça, c'est la base. Après, il y a 4 règles très importantes. La plus importante, c'est la qualité de l'œuf. Il faut impérativement avoir un œuf très très frais, étant donné qu'on va faire des blancs montés. Et si on n'a pas un œuf frais, on a des blancs qui vont grainer. Donc le soufflé ne sera pas réussi.
Donc il ne va pas prendre. Ouais. Donc les œufs frais.
La seconde, c'est le chemisage du moule. Alors c'est quoi le chemisage? C'est qu'on va passer notre moule au beurre fondu.
À l'intérieur.
Voilà. Ouais. Quand on veut faire un soufflé sucré, on va le saupoudrer de sucre. Et quand on veut faire un soufflé salé, on va le saupoudrer de farine. Et l'important, c'est ce moule, avant de le passer au beurre, il faut le passer au réfrigérateur. Parce que quand vous allez passer le beurre dans votre moule, et votre moule sera froid, donc vous aurez vraiment une fine pellicule de beurre qui va s'attacher au moule.
Et surtout pas de traces de doigts à l'intérieur, parce que ça empêcherait au soufflé de monter, hein, c'est ça, hein.
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors, deuxième règle, c'était celle-ci. La troisième.
Alors, la troisième règle... C'est quand
elle écoute Estelle Denis, voilà,
quand vous mélangez vos blancs montés avec votre appareil, que ce soit sucré ou salé, il faut impérativement que l'appareil soit chaud. Voilà, pas bouillant, mais soit chaud. Il faut vraiment qu'il y ait un choc entre les blancs froids et l'appareil tiède.
Donc si on fait une béchamel avec du fromage, par exemple...
Il faut que la béchamel soit tiède. Si on fait, avec, par exemple, un soufflé à base de fruits, mais il faut que l'appareil, le sabayon, soit tiède aussi, ou avec le chocolat, que le chocolat soit tiède.
Contraste des températures.
Contraste des températures primordiales.
Et la
après,
dernière règle.
La dernière règle qui est importante, c'est quand on va mélanger les blancs à votre appareil. Au départ, il faut mélanger un tiers des blancs, voilà, assez vigoureusement avec un fouet, et les deux tiers restants, délicatement, avec une spatule, en faisant des mouvements de haut en bas.
On incorpore.
Voilà, pour incorporer sans casser les blancs.
Et, ben voilà.
Et là, vous ne pouvez pas louper votre recette.
Alors, on vous écoute, lesquels?
Alors, j'ai donné une recette à base d'un soufflé fraise, qui est très facile à faire, un merveilleux soufflé au chocolat, et le classique soufflé au fromage.
Oh, c'est beau, ça vous parle ça Estelle Denis?
Ah bah oui, bien sûr que ça me parle.
Envie de les refaire, Ophélie?
Ouais, alors moi je veux quand même rassurer, c'est pas si compliqué, c'était une de mes premières recettes étudiantes que j'ai appris à faire en fait.
Mais
le
oui,
soufflé fromage et champignons, parce que c'était ma grand-mère qui les faisait, et ça épatait tous mes potes, et ça coûte vraiment rien du
c'est
tout
ça,
en ingrédients.
Exactement.
On s'en fait tout un monde et c'est fastoche, oui. Hein. On vous mettra les règles et les recettes sur europe1.fr.
Ah mais top, moi j'ai toujours peur que ça ne monte pas, quoi. C'est pour ça que j'en fais jamais.
Mais c'est bon, même si ça
vous recevez des gens,
bon.
Le soufflé monte pas, bon bah déjà c'est mort.
Ayez confiance. On revient après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle avec Estelle Denis. Et on va prendre le large avec vous Estelle, direction la Bretagne, une région que vous aimez je crois.
J'adore.
et ses spécialités. Et au menu également un beau tagine de poisson que vous pourrez refaire ce week-end. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, des obsèques du prince Philippe en petit comité cet après-midi dans la chapelle George VI de Windsor. Un choix voulu par le prince et qui, vous l'entendrez, chagrine ceux qui voulaient lui rendre un dernier hommage et qui s'exprime au micro de notre correspondante Anaïs Cordoba. Toute la cérémonie aura lieu dans l'enceinte du château sans que le public ne puisse suivre le cortège, mais elle sera retransmise à la télévision pour que les Britanniques partagent ce moment avec la famille royale. Et dans quelques minutes, le cercueil du duc d'Édimbourg doit quitter la chapelle privée où le prince Philippe reposait depuis une semaine. L'aide exceptionnelle que Jean Castex vient d'annoncer pour les agriculteurs touchés par le gel. Le Premier ministre annonce la création d'un fonds de solidarité exceptionnel d'1 milliard d'euros pour les agriculteurs touchés par cet épisode de gel particulièrement intense qui touche la France depuis 2 semaines maintenant. L'État doit être à la hauteur de cette catastrophe, dit Jean Castex. Toujours dans le journal de la mi-journée, nous irons à Douai pour voir si les enseignants et les policiers de plus de 55 ans à qui on a donné des créneaux prioritaires pour se faire vacciner depuis ce matin répondent présents. Vous verrez que dans ce centre, en tout cas, il y a quelques réticences à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. 2 heures que les dirigeants de la gauche ont réunis dans un hôtel parisien à l'initiative d'écologiste Yannick Jadot pour éviter, a-t-il dit à son arrivée, un duel Macron-Le Pen au second tour de la présidentielle dans un an. Autour de la table notamment Anne Hidalgo, Benoît Hamon ou encore Éric Coquerel, mais pas Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel, déjà candidat à la présidentielle. Décryptage dans le journal de la mi-journée avec le politologue Bruno Cotrès. La météo et malgré le retour du soleil, les températures restent encore fraîches, nous dira Valérie Damon. Et puis vous le savez, à 13h on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Eh bien, je vais vous emmener dans les espace. Oui, Thomas Pesquet décolle jeudi pour la Station Spatiale Internationale. Il va mener des expériences surprenantes en apesanteur, manger des emballages, porter un casque de réalité virtuelle et il embarque aussi avec lui un drôle de compagnon, un blob tout jaune.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h03 sur Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte.
On m'a refusé 3 fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache. Oui. Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1. Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez à la table des bons vivants, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Au passage, tiens encore un grand merci pour votre fidélité, vous êtes plus de 700 000 à nous écouter chaque samedi. Alors si vous avez raté le début de l'émission, vous retrouverez notre dossier consacré à la cuisine en famille avec les enfants en écoutant le podcast. Et on parlait des soufflés avec Estelle Denis et avec Yves Candebord et Ophélie Neyman juste avant. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est la température du four, Yves.
180 degrés, donc on préchauffe le four avant de commencer la recette. Et attention aussi, ne jamais avoir la curiosité d'ouvrir le four quand le soufflé est au four. On le laisse tranquille. C'est on la le cata. Laisse monter.
Vous avez tout retenu, Estelle Denis.
Oui, hein. Oui, mais c'est vrai que je suis du genre effectivement, à ouvrir le four 10 fois pour voir si tout est bien chaud et tout. Donc, okay.
Estelle Denis, on vous retrouve du lundi au vendredi à 17h30 sur la chaîne L'Équipe pour refaire le match avec votre bande et puis bien plus encore. Il n'y a pas que le foot dans votre vie, il y a aussi la Bretagne.
Aussi, ouais, c'est une région que j'adore, voilà, c'est mon petit bol d'air frais, d'oxygène, je m'y sens bien, on y mange extrêmement bien et non, c'est vraiment une région très authentique, très naturelle.
Les Côtes d'Armor, hein, précisément.
Ouais, exactement,
hein.
Bretagne Nord.
La Bretagne Nord.
Exactement.
Alors, moi je me suis renseigné, on dit que quand vous débarquez là-bas en famille, vous dévalisez les stands de poissons, de coquillages et de crustacés, c'est vrai ?
Ouais, ça c'est vrai. Ah ben non, mais de toute façon, quand je vais là-bas, c'est tout de suite, c'est plateau de fruits de mer, voilà, ça c'est mon petit bonheur. Et j'ai la chance d'avoir un poissonnier extra là-bas, donc voilà, il prépare toujours ça. Et puis après, effectivement... beaucoup de charcuterie quand je suis là-bas et puis beaucoup de poissons quoi.
Ben voilà, et puis vous adorez les coques aussi.
Oui, alors je fais de la pêche aux coques, ça c'est simple, descendez à la plage, grande marée ou même pas grande marée, il y en a partout et en 5 minutes vous remplissez un seau et puis après voilà, vous... ah, bon, ce qui est chiant c'est
de les faut les dessabler. Ouais. Dans plusieurs eaux claires hein,
plusieurs. Je passe la journée à les dégorger et puis après bah, je fais des pâtes aux coques quoi.
Les pâtes à la bengolée.
Évidemment. Ben voilà. Ouais, là c'est aux coques quoi.
Oui, voilà, on les fait avec des pas lourdes normalement, mais on a le droit d'un petit peu de transformer. Donc c'est vous qui cuisinez, c'est pas votre mari.
Non, c'est moi.
C'est monsieur ne cuisine pas.
Non.
mais il sait manger.
Et il mange bien.
Et il apprécie.
Et voilà.
Ah, ça, c'est important. Alors, c'est l'heure du plat du jour, justement. Et le plat du jour, c'est vous qui l'avez choisi, Estelle Denis, parce que vous voulez nous parler d'un restaurant que vous aimez beaucoup, à côté de Paris, à Nanterre. Comment il s'appelle ce restaurant alors ?
Il s'appelle Cabane et c'est le resto du chef Jean-François Burry.
Qu'on a pu voir dans Top Chef, oui.
Exactement, et c'est un endroit génial. Déjà, la déco est assez fantastique. Il y a beaucoup de bois, on s'y sent bien. Quoi. C'est comme une immense salle à manger. Et il y a un très grand comptoir, un grand bar. Vous avez énormément d'alcool. Enfin, voilà, c'est un endroit où on est bien. Voilà, il y a des vieux meubles chinés et la cuisine est... Et exceptionnel. Et c'est vrai que même pendant le confinement, Jean-François, il faisait des plats sous vide ou encore des plats à emporter. Et heureusement qu'il était là. Quoi,
il a développé son activité de traiteur, absolument, pour aider justement les gens de Nanterre et d'ailleurs à manger correctement. Mmh. Alors, il y a un plat qui est un must chez lui, c'est la poitrine de cochon confite au romarin pendant 24 heures. Bon. Ça a tombé, ça.
Bah oui, c'est bien. Mais moi, c'est vrai que quand je suis partie en vacances, j'ai amené plein de vacances de Noël en Bretagne. Mais je suis partie avec sa viande, quoi. Donc, je suis partie avec plusieurs ventes sous vide. Je suis partie avec sa purée fumée, qui est absolument exceptionnelle. Il marine lui-même son saumon. Bah, c'est incroyable. Et puis, en dessert. Et je ne suis pas très dessert. Mais là, franchement, son cake marbré, il vaut vraiment le détour. Donc, voilà, c'est un resto que j'adore. Et c'est vrai que souvent, en Nanterre, on se dit, oh, bah, c'est pas là qu'on a forcément envie d'aller manger. Et bah, si, allez-y.
Ce
resto est formidable.
Une table pareille. Alors, en plus, vous aviez envie de poisson aujourd'hui. Oui. Donc, regardez ce qu'il vient de nous faire, Jean-François Burry, pour la table des bons vivants. Et vous retrouverez la recette sur Europe 1.
C'est surtout, Laurent.
Un tagine de poisson.
C'est surtout très, très bon. C'est remarquable. Il y a une belle acidité. Il y a un bel équilibre avec le poisson. Le poisson est nacré. Il a une très jolie couleur.
Alors, c'est du lieu. C'est du lieu jaune. On peut le faire avec du cabillaud, avec du lieu noir. Alors, tous les légumes compotés, effectivement, dans ce tagine. Alors, il y a des carottes.
Oui, carottes, courgettes, pois chiches, coriandre, cébette. Mais ce qui est bien, c'est que chaque légume, quand même, a une texture différente, du moelleux, du croquant,
c'est ça qu'on
du long
aussi.
En bouche.
On parlait de nos ados tout à l'heure, juste avant les titres de Fabienne Lemoyle. Nos ados, ça c'est quelque chose qui peut leur plaire justement, parce qu'il y a du goût, il y a différentes textures, il y a du mou et il y a du croquant.
Oui, il y a du mou, il y a du croquant, il y a du rond, mais il y a aussi d'acidité. Déjà, moi j'ai envie de vous dire, ce qui me plaît, c'est que c'est des plats, ça ne laisse pas indifférent. Voilà, dès qu'on le mange, on s'imprègne. On rentre dans le plat.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Ophélie Neyman ?
Je ne veux pas vous répondre, je veux manger.
Moi, je vais manger.
Je penserais plutôt à un Mont-Louis, parce que c'est la Loire.
Ouais.
Parce que le chenin, ça se prête bien aux cuisines épicées comme ça. Et puis, on peut même le choisir en demi-sec avec un tout petit peu de sucre résiduel. Attention, un tout petit peu. Hein. Je ne parle pas de prendre un gros liquoreux qui va tout étouffer. Mais un tout petit peu de sucre permet de dompter parfois le piment, les épices quand on les trouve un peu fortes pour notre palais. Et surtout, ça se marie bien avec la richesse d'un plat comme ça.
Il y a de belles épices et vous aimez le poisson et les épices. Donc, vous êtes heureuse, Estelle Denis, là.
Ah, mais là, vous ne pouvez pas me rendre plus heureuse. Donc, non, mais merci. Mais voilà, j'adore ce plat. Et franchement, il vaut vraiment le détour parce qu'il change de plat là. Bon, en ce moment, ce qui fait que de la vente emportée, mais chaque semaine, il y a deux plats différents, deux entrées différentes, deux desserts différents. Donc, ça permet de ne pas se lasser aussi.
Et on salue tous nos chefs cuisiniers, justement, qui résistent partout en France, qui font du click and collect et tous les traiteurs aussi qui permettent effectivement à toutes les familles de diversifier leur alimentation et les repas. Parce que c'est vrai que ce confinement, ce couvre-feu et ce télétravail nous ont remis vraiment au centre de la cuisine avec le fait maison. Mais parfois, on a envie de se faire livrer et de commander ailleurs. Hein. Donc, quand on finit l'émission sur la chaîne L'Équipe et qu'on rentre le soir, on est content de trouver un plat comme ça.
Oui, on est ravis. Oui. Oui, c'est toujours une bonne surprise.
Estelle Denis, on connaît l'importance du sport dans votre vie. Eh bien, figurez-vous que le sport et le monde du vin ont aussi beaucoup de points communs. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Ophélie Neyman. On en parle juste après la pause. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous revoilà avec notre invitée Estelle Denis, la sportive épicurienne. Ça vous va bien ça comme définition ?
Oui, c'est très bien.
Manger et bouger, pas en même temps.
D'ailleurs, je bouge pour manger en fait.
C'est ça. Oui, mais comme beaucoup de gens, ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas envie de vous priver en fait ?
Ah non, pas du tout.
Vous faites
non,
du sport pour ça ?
Non, mais je fais du sport parce qu'après j'aime ça et ça permet d'évacuer toutes les tensions, etc. Mais il y a aussi l'idée de j'ai fait du sport, par exemple ce matin, là franchement je peux manger tout ce qu'il y a autour. Bon, de toute façon, même si j'ai pas fait de sport, j'aurais mangé parce que j'adore ça. Mais je trouve que le sport donne bonne conscience.
Qu'est-ce que vous faites comme sport ?
Je cours beaucoup et puis je fais un peu de boxe. Voilà.
D'accord.
Et puis du tennis.
Alors, vous avez participé au marathon de Paris en 2015. Ouais. Et l'année dernière, vous avez fait un semi-marathon, les yeux bandés. Racontez-nous
ouais,
ça.
Alors j'ai fait 10 km en fait, les yeux bandés. Ouais. Et puis Stéphane Diagana a fait les 10 autres kilomètres, ce qui m'arrangeait quand même. En fait, non, c'était l'idée de montrer que on pouvait avoir un handicap et quand même faire du sport. Donc en fait, j'ai fait 10 km les yeux bandés avec un guide pour non-voyants. Et c'était une expérience absolument extraordinaire. Parce que c'est là où on se rend compte quand même.
Des difficultés, des obstacles.
Hein. Ah, mais c'est hyper dur, il y a les obstacles, même le revêtement de la route. Vous avez des sensations absolument folles parce que vous vous rendez compte de tout. En fait, voilà, effectivement, que le revêtement de la route, tout d'un coup, c'est plus le même. La moindre petite montée, c'est ouais. assez dingue. Et franchement, voilà, ça a été... Ça a été une expérience assez formidable l'année dernière. Ouais.
Alors, c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Ophélie Neyman. Ophélie, en l'honneur d'Estelle, vous avez chaussé vos crampons à la recherche des sportifs qui investissent dans le vin. Alors, c'est vrai qu'on pense souvent que sport et vin ne font pas bon ménage. Vous allez nous prouver le contraire, là. Hein.
Oui, parce qu'il y a deux types de sportifs. Moi, je ne suis pas très sportive, je le dis franchement, mais j'ai distingué quand même deux catégories. Il y a ceux qui investissent dans le vin pour l'acheter et le boire. Et ceux qui investissent dans le vin pour en produire et le vendre.
Oui, alors... c'est pas pareil, c'est vrai.
Non, dans la première catégorie...
Première catégorie, alors oui. Ceux qui investissent dans le vin pour le boire.
Des joueurs de la NBA. Alors ça, c'est peut-être les plus remarquables, que ce soit LeBron James, que ce soit Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Tony Parker. Ils adorent le vin, ils ont des collections de vins de dingue et ils font des soirées dégustation apparemment assez épatantes.
Ah oui.
Côté football, alors un très classique, c'est Sir Alex Ferguson, le oui. mythique entraîneur de Manchester, qui a une énorme collection de vins aussi, avec des allocations remarquables, comme Petrus, la Romanée Conti.
Alors les allocations, c'est des droits en fait, hein, c'est des sortes d'abonnements qui vous donnent le droit d'avoir justement...
De pouvoir acheter ces bouteilles-là qui sont très rares.
Très très rares, ouais. Exactement.
Et puis plus près de nous, parmi les footballeurs, il y a quand même Olivier Giroud et Christophe Jallet, hein, qui est quand même fils de viticulteur et qui a même fait une formation en vitienneau pour pouvoir produire du vin.
Vous avez goûté leur vin ou pas, Estelle Denis?
Non, pas encore, je ne savais même pas, donc j'apprends des choses.
Ah,
non,
magnifique, on est ravis. Alors, dans le tennis, il y a aussi un tandem très aguerri hein, sur le sujet. Hein.
Oui, c'est Arnaud Clément et Michael Liodra qui sont fous de vin. Pareil, ils ont une cave à donner le tournis et ils ont même lancé un bar à vin à Dijon qui s'appelle Dr Wine.
Et la seconde catégorie, les sportifs qui produisent du vin, alors?
Oui, alors, y a celui qui a dans le verre, on en parlera juste à la fin. Et il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'achats de vignobles, mais il y a eu beaucoup de reventes aussi, parce que c'est assez sportif, en fait, de gérer un domaine. Mais je retiens quand même quelques très beaux exemples. Andrea Pirlo, un des plus grands footballeurs italiens, si je ne me trompe pas. Jean Tigana, qui a créé la Donna Tigana à Cassis. Éric Carrière, qui a lancé les caves Carrière. Et puis, le Girondin de Bordeaux, Mathieu Chalmet et Johan Micou, qui se sont associés pour créer Château Connivence, un Pomerol très haut de gamme.
Vous nous avez apporté du vin. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on boit? Racontez-nous.
Alors, on a peut-être l'icône incontournable qui réunit rugby et vin. C'est Gérard Bertrand, ancien joueur de Narbonne, du capitaine du Stade français, qui a aujourd'hui 16 châteaux et domaines en Languedoc, plus de 800 hectares de vignes en biodynamie, à tel point qu'on a complètement oublié qu'il était rugbyman avant. Hein, on le connaît maintenant comme grand producteur de vin. Et ça, c'est Château L'Hospitalet. C'est un des vins qui a été primé comme un des meilleurs vins rouges au monde dans un concours de dégustation internationale. Donc, concours qui vaut ce qu'il vaut. Mais enfin, voilà, il fait quand même des bons vins comme des petits vins. On va trouver des vins à 6 euros au supermarché, puis des vins à 400 euros parmi ses plus grands châteaux. Mais ce n'est pas le seul rugbyman, Yves. Et vous en connaissez plein.
Oui, moi je connais des petits artisans. Gérard Bertrand, c'est quand même un industriel du vin.
Oui, c'est un gros faiseur de vin.
Ouais, en plus, c'est des joueurs qui sont encore en action. Rémi Lamera, trois quarts centre de Bègles-Bordeaux, a un domaine à Bordeaux qui s'appelle Bertrand Ravache et surtout l'emblématique entraîneur de Bordeaux qui a une gouaille extraordinaire, Christophe Furios, qui a racheté son domaine familial et avait ses frères. Donc dans le Minervois, ils ont Château Pescuc. Et c'est vraiment... Un vin qui ressemble à Christophe, c'est un vin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère.
Estelle, vous préféreriez quoi, investir pour vendre ou investir pour boire?
Les deux.
Bah voilà, pas incompatible en fait.
Non, je trouve ça bien. Mais il y a Patrick Chêne aussi, ancien commentateur du Tour de France, qui a investi, qui a un domaine et qui s'appelle le domaine d'Embrun.
Exactement.
Ouais, et c'est très très bon.
Et,
oui.
Et c'est très bien ce qu'il fait. On l'a vu beaucoup à la télévision ces derniers jours, malheureusement, avec cet épisode de gel qui a ruiné une grande partie des vignes. Et encore une fois, on pense à tous nos agriculteurs qui nous écoutent et qui ont subi ces pertes terribles, parce que c'est un tiers des surfaces agricoles qui est touché par le gel. Ça concerne les arboriculteurs, les vignerons, les maraîchers. Enfin voilà, j'en oublie certains. On redonne la référence de ce vin rouge?
Oui, bien sûr. C'est le Château L'Hospitalet de Gérard Bertrand. Gérard Bertrand qui a plusieurs châteaux. Et j'ai pas cité tous les sportifs, hein, y en a plein, en sport automobile aussi. Enfin voilà, le vin et le sport, c'est quand même une jolie histoire.
Bah c'est le vin et la vie.
Le sport automobile et le vin, attention, en même temps, hein, faut faire gaffe. Hein, voir où choisir, il faut conduire, comme dit l'autre. Hein. Nous sommes avec Estelle Denis jusqu'à midi et demi. Ne bougez pas, vous allez la découvrir de l'autre côté de la fourchette, justement. Ses habitudes, son meilleur repas, son pire repas, c'est juste après la pause. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Le temps passe vite, nous sommes à table avec Estelle Denis depuis un petit peu avant midi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Tout se passe bien, Estelle ?
Ah oui.
Le menu est à votre convenance ?
Mais écoutez, tout me va, c'est fantastique.
Bon, c'est vous qui avez choisi ce magnifique tagine de poisson. Hein.
Oui, mais il y a le tagine de poisson,
Jean-François Bury, la cabane
asperges,
à Nanterre.
Le marbré, le vin.
Alors oui, vous parlez de cette omelette aux asperges qui a été faite par Julien Dubouet, que vous avez croisé juste avant de venir. Oui. Julien Dubouet qui est le chef de Boulhomme et qui a fait cette omelette aux deux asperges, Yves.
Oui, qui a fait cette omelette aux deux asperges pour nous faire voir qu'on pouvait, avec les mêmes ingrédients, faire à manger pour les adultes. Pour les ados et pour les enfants.
Exactement.
Et c'est vrai que l'œuf coq avec la petite nouillette,
mais bien
pour
sûr.
Un gamin de 3-4 ans, c'est ludique, c'est beau.
Ça marche divinement bien.
Ça marche divinement
et
bien.
Et vous retrouverez ce dossier en écoutant le podcast sur europe1.fr. Estelle, on vous retrouve tous les soirs hein, à partir de 17h30, 2h de direct avec votre bande dans l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe. Avant de vous frotter au questionnaire des bons vivants, est-ce qu'il y a une chose à savoir sur vous côté cuisine, Estelle Denis, qui est vraiment importante quand on veut vous faire plaisir, quand on veut vous inviter quelque part? Est-ce qu'il y a des produits qu'il faut éviter et d'autres qu'il faut privilégier?
Non, j'aime tout, mais il faut que ce soit de la bonne bouffe, quoi. C'est-à-dire que moi, enfin, faut pas m'inviter dans un bar à salade, quoi.
Alors, vous adorez les fruits de mer, les poissons, on en a parlé, et vous rêvez aussi d'apprendre à pêcher pour une raison bien particulière. Vous avez raconté ça aux Parisiens, vous vous souvenez ou pas ?
Non, qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit que vous vouliez apprendre à pêcher pour pouvoir vider vos propres poissons.
Ah, j'adore vider les poissons. Non, mais là, je vous jure. En fait, j'ai deux passions et c'est terrifiant. J'aime vider le poisson et j'aime découper le homard. Alors, je sais que c'est pas.
C'est le sketch de Valérie Lemercier. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Videuse de truites.
C'est ça, mais écoutez. Mais moi, j'adore ça. C'est-à-dire que quand il y a un homard à découper, je vois tout le monde qui hésite et moi, j'arrive, j'ai donné-moi le couteau. Non, mais franchement, je sais pas. Ça doit être très étrange. Mais moi, j'aime ça, quoi. J'aime toucher la bouffe. J'aime. Voilà, c'est un vrai truc quand on fait la cuisine, de toucher les produits, d'avoir les mains sales, d'aller les laver. Vous avez une sole, vous la faites meunière. Enfin voilà, moi j'aime ça, quoi, mettre main à la farine.
Ça vient d'où cet amour des bonnes choses ? Votre papa vous a transmis le goût des bonnes choses ?
Oui, mon père adorait cuisiner. Donc c'est vrai qu'on savait quand c'est le week-end, mes parents sont médecins, mais donc en fait, le week-end, quand ils se mettaient au fourneau, on savait qu'on allait hyper bien manger, quoi. Donc c'était super important, quoi.
Qu'est-ce qu'il vous faisait ?
Il faisait tout, c'était selon son inspiration, mais pour le coup, on avait. Comme dans les familles, vous savez, le gros livre Bocuse, là, vous savez.
Et la donc, référence.
Et on savait qu'on allait, qui était déjà tout usé et tout, et on savait qu'on allait hyper bien manger. Il y passait des heures, mais c'était. Donc pour moi, la cuisine, c'est ça, c'est du travail. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'amour, et puis après, on déguste ça tous ensemble, quoi.
Estelle Denis, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, et attention, ça va chauffer. Estelle, quel est le goût de votre enfance ?
Je vais dire le lait concentré. Je suis incapable d'en manger, mais parce que j'en ai tellement mangé, j'adorais ça.
C'est bon, sucré. Archi-sucré. Ouais. Hein.
Il en reste plus beaucoup. Et voilà, vous êtes là, vous tordez le tube et tout. Mais c'est extraordinaire.
C'est
alors qu'en plus, j'aime pas trop le sucré, mais ce truc-là, c'était. Ah ouais, c'est mon enfance, quoi.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné ?
Bah, j'imagine que c'est des pâtes. Bah, comme toute. J'ai dû commencer à
au
cuisiner.
Au beurre, il y avait une petite sauce quand même, ou juste nature, non ?
J'ai dû essayer de trouver une sauce dans le frigo, vous voyez, mais ouais, des pâtes, du beurre, du parmesan.
Votre plus beau repas ?
Mon plus beau repas, j'ai eu la chance de manger dans les cuisines du Bristol avec Éric Fréchon, qui est un ami.
Grand chef qui sera à cette table bientôt, oui.
Ah bah. Vous avez de la chance. Et voir à la fois Eric travailler, tous les chefs travailler, être dans son bureau.
L'organisation de la brigade.
Ouais, exactement. Donc, voir vraiment comment ça se passe, le coup de feu, etc. Et à la fois être dans cet endroit, dans ce bureau où on peut manger à quatre, en fait, et qui est un peu isolé. Vous avez l'impression d'être. C'est au sous-sol, en fait. Et on a l'impression d'être dans un endroit hors du monde.
Et qu'est-ce que vous avez mangé, vous vous souvenez alors ?
Ah bah ouais.
Ah, alors allez-y.
Bah, il y a un peu de tout pour
la référence.
Ouais, bah il y avait évidemment les cannelloni aux truffes, bien sûr. Et puis moi, le plat d'Éric que j'aime, c'est la purée au ad hoc avec.
Ça c'est exceptionnel.
Oh là là, avec le caviar en dessous, servi dans une petite boîte là.
Oh là, on rêve là. C'est magnifique. Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer.
Ben, j'en ai pas parce que si j'ai envie d'essayer, je le fais.
Les produits tripiers, tout ça, rien ne vous fait peur, hein.
Je suis pas très produit tripier, mais mon papa était fan de ça. Donc un jour, pour un de ses anniversaires, je l'avais amené à côté de Notre-Dame, dans un restaurant spécialisé
chez Ribouledingue.
Ribouledingue, c'est ça.
Absolument.
C'est ça. Il avait été heureux, vous pouvez pas savoir.
Ah bah oui, spécialisé dans les abats et dans les produits tripiers. Très belle table. Quelle est votre bande originale quand vous cuisinez? Qu'est-ce que vous écoutez?
Ah, bah, je me mets. J'ai une petite playlist qui s'appelle Calmos, en fait. C'est que les trucs un peu calmes. Je me fais un petit verre de vin blanc. J'adore ça, en fait.
Ah oui, cuisiner avec le petit verre de vin blanc, c'est magnifique.
Mais exactement.
Ça. Bah,
moi, c'est mon petit verre, ma petite playlist. Et surtout, personne ne rentre dans la cuisine. Personne ne dérange.
On est d'accord.
Voilà, pendant une heure et demie, deux heures, on me fout la paix. Et ça, c'est un moment, mais c'est extraordinaire.
Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Estelle Denis?
Bah, c'est compliqué, j'en amènerai beaucoup, mais je crois que j'amènerai un plateau de fromage avec une bonne baguette.
Ah voilà, des valeurs sûres là. Hein.
Ah ouais.
Bah oui, pays où plus de 1000 fromages, on a le choix, on a une belle sélection.
Ça, j'adore ça. Faire des soirées fromage, mais franchement, en plus, vous n'avez rien à faire. Vous demandez à votre fromager.
Il n'y a pas de pression là.
Non, mais il y a zéro pression. Votre fromager vous prépare un petit plateau. En plus, le mien, il se donne vraiment du mal, quoi. Donc il fait le petit plateau, les confitures qui vont bien, les noix, les machins, vous faites juste la salade.
Petit condiment.
Ah, vous êtes bien.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Mes amis. Ouais, mes amis, mes proches, c'est ça le dîner idéal, quoi. C'est pas un dîner d'affaires, c'est pas un dîner avec des personnalités, ça. Non, c'est mes potes, quoi.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné?
J'ai cuisiné un tagine de poulet au citron confit.
Ah, joli, ça.
Ouais, bon, c'est pas très dur non plus, mais enfin...
Bah non, mais c'est bien, ça.
Ouais, mais c'est bien.
Mais le poulet et le citron confit, on sait que ça marche,
en plus. Oui, ça marche bien. Et un peu de riz, hop.
Et ben voilà, et pour terminer, Estelle Denis, le mot de la fin, F-A-I-M.
Je vais dire miam.
Ah, c'est bien, miam. Bah oui. Et remiam, même, parce que quand il y a du rab, même pas vous.
Et remiam.
Merci, Estelle Denis, d'être venue à la table des bons vivants. Et on vous retrouve lundi sur la chaîne L'équipe à 17h30 en direct. Vous suivez le foot, vous, l'amateur de rugby,
Même si je suis quand même rugby à 200%, mais je suis le foot et je suis surtout l'OM.
Ah, ben voilà.
Et le Sud-Ouest, on était très OM.
C'est une information.
En ce moment, c'est dur.
Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette belle émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, Julien Matt, Marion Sauveur, Alice Foss à la rédaction, Agnès Vaudin à la programmation et Julien Blanc à la réalisation. Merci Ophélie.
Merci.
Salut
Laurent,
Miss Glouglou. On vous lit dans le magazine Aime le Monde. Au revoir Yves Candebord.
Au revoir Ophélie.
Merci Estelle d'être venue. Vous savez, vous connaissez l'adresse. Nous sommes là tous les samedis de 11h à 12h30. Je vous le dis encore une fois, merci pour votre belle fidélité. Nous sommes samedi, alors faites le marché et la cuisine. On se retrouve samedi prochain avec un autre bon vivant. Le journaliste, écrivain et acteur Christophe Bourseiller sera des nôtres. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1.